et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue à tous dans le dialogue des religions. Eric Mandela Kiza en votre compagnie. Lionel Runania Gahima assure la mise en onde. Ce soir, nous revenons sur l'importance de connaître son tempérament. Nous sommes à la troisième série de notre livraison. Le secret, c'est bien sûr le reconnaître pour se reconnaître en vue de pouvoir adapter ses comportements. Précédemment, nous avons parlé du tempérament sanguin et celui du ou de la mélancolique. Dans cette édition, nous nous focalisons sur le tempérament phlegmatique. Et Olivier Hakizimana sont avec nous depuis le Québec au Canada. Bonsoir.
Bonsoir Eric.
Bonsoir Eric.
Je dois ajouter les amoureux.
Oui, en effet.
Oui, grâce à Dieu.
Vous êtes un couple vieux d'une dizaine d'années, n'est-ce pas, avec trois enfants.
Exact.
Vous êtes toujours amoureux comme avant ou c'est nettement mieux après avoir évidemment découvert vos tempéraments?
Je pense que c'est nettement mieux parce qu'il y a moins d'illusions.
Moins d'illusions?
Oui, il y a moins d'illusions parce que, vous savez, quand on se rencontre avec, je dirais, sa fiancée ou son amoureux ou son amoureuse, avec la première rencontre, on se fait plein d'illusions par rapport à la personne. Mais aussitôt que vous commencez à vivre avec la personne au quotidien, on la découvre réellement et c'est là où on réalise qu'on avait fait une image, on l'avait créée selon ta propre, je dirais, image, volonté et, ou conception, mais la personne qui est en face de toi est très, très différente. C'est pour cela que je dis maintenant, j'aime la vraie Nathalie que celle que j'avais conçue.
Nathalie, vous avez appris le réalisme?
Ah oui, bien sûr. Comme toute bonne mélancolique, j'avais bien tracé mon univers, j'avais créé mon prince charmant chrétien. Et comme Olivier l'a dit...
Il en reste.
Il est très charmant, mais il est selon les critères de Dieu, non pas selon les critères de Nathalie. Voilà, c'est ça l'avantage.
Et comment vous le traitez? Vous évitez de lui faire des reproches?
Oui, maintenant je comprends son caractère sanguin. Je sais qu'il est plutôt impulsif naturellement. Une impulsivité que je n'ai pas, que je ne comprends pas, que je ne saisis pas, mais que j'apprends à connaître au travers de lui et qui me fait aussi du bien dans mon caractère.
En étant calme et posé.
Oui. Avec le temps, j'ai appris à connaître son langage et ça m'aide. Et puis un peu d'impulsivité chez le mélancolique, ce n'est pas mauvais du tout.
Le problème n'est pas le fait de ne pas être calme. Parce que avant, le problème avec les mélancoliques, c'est plus le regard et les non-dits.
J'aime votre spontanéité, Olivier. Et votre ouverture. Hein? J'espère que vous évitez de la piquer au vif.
Ah, je sais, mais...
C'est pas évident.
Comme la parole de Dieu nous dit, de compter sur le Saint-Esprit, exact. C'est ce que je fais. Mm-hmm. Je lui fais conscience et il me change. Mais heureusement, elle aussi, elle a appris à me connaître et savoir que si je fais des blagues, il n'y a pas une arrière-pensée négative.
Mm-hmm. Nathalie, quelle est la relation entre la foi et les tempéraments?
C'est une excellente question parce que souvent quand on étudie les tempéraments, on dirait que Dieu n'est pas derrière. C'est lui d'abord qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé le corps humain. Puisqu'on reconnaît quand même que le corps humain a été créé par Dieu, on reconnaît aussi que l'âme a été créée par Dieu et que les tempéraments font partie de l'âme. L'un des exemples patents que je donnerais, c'est celui de Simon, qui a été le disciple de Jésus. C'était un sanguin qui était, le mot Simon veut dire un roseau, et qui a été changé par Jésus Et il lui a dit, tu seras appelé Pierre, ça veut dire tu seras beaucoup plus ferme. Donc, il a confessé sur cette faiblesse de tous les sanguins qui sont assez changeants. Et il lui dirait, un jour tu grandiras, tu matureras et tu deviendras vraiment quelqu'un de ferme. Donc, la foi est très importante pour nous aider là où nous avons vraiment des faiblesses.
Je signale, Nathalie, que vous êtes mélancolique. L'individu marqué par cet élément aime construire et perfectionner sans cesse. En se montrant patient, déterminé, endurant et discipliné, il fait preuve de sens pratique et de réalisme, pouvant par contre se montrer obstiné et un peu possessif vis-à-vis de ses possessions. Olivier, vous êtes plutôt sanguin, la personne sanguine et joyeuse, n'est-ce pas, avide et optimiste, et peut-être rêveuse au point de ne rien accomplir et être aussi impulsive, agissant de façon imprévisible. C'est une personnalité qui, comme le flegmatique, a beaucoup d'amis. Et ce soir, notre sujet, c'est justement le flegmatique. Olivier, n'est-ce pas que les flegmatiques aiment le calme et l'harmonie?
Oui, exactement. Les flegmatiques, ils sont plus attirés par la paix et c'est pour cela que on les appelle souvent des pacifistes. Et comme les quatre tempéraments font partie des deux groupes, il y a les introvertis et les extravertis. Alors les flegmatiques font partie de la deuxième catégorie. Ce sont les introvertis qui sont calmes, qui veulent avoir la paix avec tout le monde, qui n'aiment pas s'engager ou se dévoiler ou ouvrir facilement ou montrer, leurs sentiments.
Nathalie, quels sont d'autres indicateurs d'une personne flegmatique?
Alors, comme Olivier vient de le dire, ce sont des êtres introvertis qui recherchent la paix. Leur approche de la réalité est vraiment des passionnés. Ce sont des gens extrêmement rationnels et scientifiques. Ils savent vraiment écouter, d'où le fait qu'ils ont beaucoup d'amis. Ils sont aussi empathiques. Et puis, ils ont un vrai sens du devoir.
Et d'observation.
Oui, ce sont des grands observateurs parce que, vous savez, quand vous ne parlez pas beaucoup, vous avez le temps de regarder et d'analyser. Donc, ce qui fait que ce sont des bons analystes, ce sont des gens qui observent beaucoup.
Des gens qui observent beaucoup, de bons diplomates.
Exactement, oui, ce sont de bons diplomates qui recherchent toujours la paix. Vous savez que une personne qui recherche la paix, il a un sens aigu prononcé, l'instinct de survie qui est très développé, parce que il recherche à éviter toute situation qui va le mettre, en péril ou en opposition avec les gens. C'est pour cela qu'ils sont diplomates et même ils savent comment parler à toute personne. Ils ont cette intelligence émotionnelle de pouvoir s'adresser à différentes personnes, à savoir comment traiter chaque personne selon son tempérament. C'est pour cela qu'ils sont très diplomates. Et souvent, on compare les gens qui font du nord de l'Europe, comme la Scandinavie, comme les gens là où il y a la majorité des flegmatiques.
Ce sont aussi des personnes souvent très disponibles.
Oui, exactement. Ils sont là pour rendre service, pour aider les gens. Ils sont amicales. Je pourrais dire du côté amical, on pourrait les comparer un tout petit peu avec les sanguins, sauf qu'ils ne sont pas, eux, extravertis. Ils sont introvertis, mais ils savent créer une bonne relation avec les gens, mais garder aussi les gens plus que les sanguins, qui ont 100 amis, mais en réalité, peu d'amis, très profonds.
Nathalie, est-ce que c'est quelqu'un sur qui on peut toujours compter?
Oui, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, parce que c'est quelqu'un qui écoute. Souvent, ce qu'on recherche chez un ami, c'est l'écoute, c'est un conseil. Donc, c'est facile de retrouver chez un flegmatique une personne sur qui on va compter, parce que son analyse de ton problème ou de ta situation est très dépassionnée. Parce que souvent, quand on va chercher des amis ou des conseils, on est dans tous ses émois émotionnellement parlant. Elle, c'est une personne qui va vraiment t'écouter, qui va être dépassionnée, rationnelle et scientifique, et qui a aussi naturellement un don d'écoute.
Mais on lui reproche d'être aussi têtue. Est-ce qu'on peut compter sur une personne têtue?
Je dirais peut-être on pourrait compter sur eux parce que en général une personne têtue c'est une personne de conviction. Mm-hmm. Et c'est pour cela qu'on peut compter sur la personne quand elle t'a donné sa parole. Mm-hmm. Souvent on est sûr qu'il va la garder ou qu'elle va la garder.
La tête-tutesse vient du fait aussi que peut-être on n'a pas compris la situation. Si c'est bien éclairé que peut-être elle n'est pas blessée, c'est facile de ne pas être têtu. Mais ce sont des gens qui sont effectivement des gens de grande conviction.
Dans quel sens, au niveau de la prise de décision?
Je dirais quand on parle du fait qu'ils sont têtus, c'est parce que ce sont des gens qui n'aiment pas quitter leur zone de confort. Alors quand ils sont cramponnés dans leur zone de confort, les en faire sortir, c'est vraiment très très difficile. Ils ne sont pas aventuriers comme les sanguins. C'est pour cela que là ils sont enracinés. Pouvoir les déraciner, ça prendra plus d'efforts. Alors des fois on pourrait les sentir un peu agressifs parce que ils ne sont pas prêts à changer.
Ils sont très réticents au changement.
Ouais.
Lorsque vous dites que c'est difficile de sortir de sa zone de confort, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas de sacrifices?
Non, pas du tout. Il peut faire des sacrifices pour les autres. Ça, c'est vrai au niveau amical, au niveau relationnel. C'est quelqu'un qui va perdre parce qu'il veut être en paix avec les autres. Mais par rapport au travail, disons, je donne un exemple du travail, c'est une personne qui est capable de travailler au même endroit, même s'il peut se plaindre. Mais le fait de vouloir changer, c'est déjà un drame pour lui. Donc, il va accepter de rester là. Ça peut être une forme de têtutesse, hein, ou une forme de sacrifice pour certains. Mais c'est une personne qui va essayer de ne pas vraiment trop se déranger. Si c'est pour aider les autres, si c'est pour aider les autres dans un autre domaine, il va perdre. Si vous apprêtez de l'argent, il sera prêt à vous laisser cet argent au risque d'avoir des frictions avec vous. Mais si, par exemple, c'est quelque chose qui lui concerne personnellement, il va préférer rester dans son problème que dans réellement de s'en sortir.
On peut dire aussi qu'ils aiment faire les sacrifices dans le sens où ils sont timides. Et comme ils sont timides, ils n'aiment pas déranger. Et on peut dire, oh, ces gens-là, ils s'oublient facilement. Ils sont généreux, mais au fond, ils sont timides et ils veulent déranger personne.
Mais la générosité ne cache pas la timidité.
Oui, exactement. Mais vous savez, je dirais quand on parle de la générosité, on ne connaît pas toujours la motivation qui est derrière. On peut juger la générosité par rapport au fait de voir les gens qui donnent, qui se donnent, mais on ne sait pas qu'est-ce qui les pousse à faire, à poser cet acte. C'est pour cela que souvent, je ne dis pas que c'est tous les jours comme ça, les flegmatiques, ils s'oublient facilement par peur de confrontation. Et là, on peut dire, oh, ils s'oublient facilement, ils laissent les autres avancer. Lui, il reste dans sa place, il reste en place, il ne veut pas changer. Mais au fond, il a peur de déranger.
Okay, exactement.
Et quand il prend une décision?
Comme il prend toujours le temps de réfléchir là-dessus, et comme prendre une décision lui demande des efforts énormes, c'est pour cela qu'il reste cramponné et qu'on le considère comme étant têtu.
Une décision irréversible. Nathalie, une personne flegmatique peut aussi, des fois, être sarcastique.
Oui, ce sont des gens sarcastiques quand, surtout... ils sont avec les gens, c'est leur façon aussi de communiquer avec les autres, parce qu'ils ne sont pas réellement trop relationnels, ils savent écouter, mais leur expression particulière aussi envers les autres, c'est quelqu'un qui peut être sarcastique, surtout quand il a eu de doses de beaucoup de choses, peut-être des fois des négatives.
Olivier, d'où vient finalement son agressivité, son côté passif?
Je dirais c'est la volonté de ne pas être dérangé, de ne pas le pousser à sortir de sa zone de confort, et aussi c'est lié aussi à sa timidité, et tout ça réuni, la personne ne veut pas être dérangée, et quand il sent que tu le pousses dans ses derniers retranchements, là tu peux sentir un peu d'agressivité, mais au fond ce sont des personnes qui sont pacifistes. Et si vous sentez un flegmatique qui devient agressif à votre égard, sachez que vous avez dépassé les bornes.
Personnalité biblique qui est de type phlegmatique.
Oui, la parole de Dieu nous montre quelques exemples, peut-être pas directement parmi les disciples de Jésus, mais il y a une figure historique de la Bible qui est Abraham, qui est le père de la foi. C'est quelqu'un qui est considéré comme un phlegmatique. Il a reçu une parole de Dieu, il a quitté sa maison à l'âge de 75 ans. Je me dis que cet âge n'était pas fait exprès, peut-être qu'il avait entendu cette parole, mais que c'était très difficile pour lui. Mais Abraham est considéré comme un phlegmatique dans la parole de Dieu, ce qui devait être rassurant pour tous les phlegmatiques qui se disent qu'ils ne peuvent pas devenir des leaders.
C'est un stratège.
Oui, c'est un stratège parce que, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui est naturellement dépassionné ou irrationnel. L'un des exemples qui nous est montré dans la Bible, c'est que en allant en Égypte, il a accepté de mentir sur sa femme et dire à au pharaon d'Égypte en disant mais cette jeune femme c'est ma sœur. Et on voit que c'est qu'une personne qui devant des situations peut éviter les conflits et presque faire des mauvais choix.
Je pense aussi dans les relations avec Dieu, le mot d'ordre, le mot qui va revenir souvent dans ce que le Seigneur va leur dire, c'est « quitte ». Comme Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie, le Seigneur va te dire « quitte
ta
zone ». Oui, c'est ça, ta zone de confort.
Et comment traiter une personne phlegmatique? Quelles sont les concessions à faire et quand est-ce qu'il faut être ferme, Nathalie?
Moi, je pense que il faut pas prendre un phlegmatique comme d'abord une personne malade. Hein. C'est juste le prendre, savoir que c'est une personne qui a un tempérament différent du tien. Savoir qu'il a des forces, mais que parmi ses faiblesses, il aime beaucoup le statu quo et qu'il n'aime pas le changement. Et que quand il faut faire des ajustements, des changements, il faut y aller doucement. Parce que ce n'est pas comme un sanguin qui aime le changement ou un colérique qui est prêt à faire des changements naturellement, qui est poussé à l'action. Le phlegmatique a, lui, tendance à vraiment aimer le statu quo. Donc, s'il y a des changements à faire, le comprendre que même s'il ne change pas ou qu'il ne s'ajuste pas rapidement, ce n'est pas contre toi, mais c'est juste naturel. Et que lorsque aussi, en cas de conflit, ce sont des gens, par exemple, dans situation familiale, quand il y a un cas de conflit, c'est une personne qui va fuir ou qui ne va pas donner directement son point de vue ou qui le donnera très mal. Alors, ces gens qu'on appelle des fouillards ne sont pas des fouillards comme tels, mais leur nature pacifiste, lorsqu'elle est attaquée, ils ont tendance à vouloir le protéger, à protéger ce jardin et de paix qu'ils se sont créés et à tendance à fuir. Donc, comprendre, ne pas les accuser qu'ils sont faibles, mais qu'ils ont une façon de voir différente.
Est-ce que c'est vraiment fuir ou esquiver le temps de réduire la tension?
Ils ont tendance naturellement à fuir, mais il faut plutôt les aider à surmonter les obstacles.
Olivier?
Oui, je pense que au fond de ce qui les motive, c'est plus cette recherche de la paix. Mm-hmm. Et toute situation qui ressemble, je dirais, à un sujet de conflit, ils vont essayer de l'esquiver. Donc, c'est dans leur nature. C'est en eux, c'est ancré en eux. Même si tu essaies, ils essaient de fuir ça. Mais des fois, ce qu'on peut faire, c'est de les aider à une stratégie qu'on aime souvent mettre en place par rapport aux phlegmatiques, c'est de leur demander de s'exprimer en écrivant les émotions qu'ils ont, ou des fois en les incluant dans les équipes, pour voir que leur lenteur ou le fait qu'ils n'aiment pas prendre les décisions, ça peut affecter les autres. Et comme ça, quand ils grandissent, ils comprennent que leur inaction peut envenimer les choses, les situations, ou bien causer du tort aux autres.
Et que peut faire un phlegmatique pour adapter son comportement vis-à-vis de lui-même d'abord et puis vis-à-vis des autres, Nathalie?
Comme on l'a dit, il faut qu'ils acceptent qu'ils ont des forces et des faiblesses. D'abord, s'auto-diagnostiquer, si on peut le dire ainsi, et croire que ces faiblesses ne sont pas définitives, qu'on peut travailler sur les faiblesses. Et lorsqu'il prend conscience de ses faiblesses, qui dans certaines circonstances sont vraiment des forces. Hein. En fait, les forces et les faiblesses, c'est pratiquement deux facettes d'une même pièce s'ils ne sont pas bien travaillés.
Exactement. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a donné l'illustration, il parlait d'un gant. Et vous voyez, le gant est formé comme les doigts d'un homme ou d'une femme. Alors, il disait, nous avons été créés à l'image de Dieu. Il faut que le flegmatique comprenne et sache qu'il a été créé à l'image de Dieu. Alors, s'il a été créé à l'image de Dieu, ce qui donne la force aux gants, c'est les doigts qui se glissent à l'intérieur. C'est de laisser la présence de Dieu venir en lui ou en elle. Et comprendre que sans Dieu, il ne peut rien faire. C'est pour cela que c'est lui qui nous transforme. Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'il nous a donné son esprit, et un esprit non pas de crainte, mais un esprit non pas aussi de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pour cela que je dirais la place de la foi est tellement énorme, et surtout pour les introvertis qui aiment fuir les situations ou qu'il aime les gérer de façon interne, sans pour autant, je dirais, s'exprimer.
Oui, Nathalie, vous voulez dire quelque chose?
Donc, je voulais juste conclure sur le fait que, malgré que ce sont des gens pacifistes, ils recherchent la paix chez les gens, ou dans le calme des circonstances, et que, malheureusement, puisque la vie n'est pas faite de moments que calmes, il faut qu'ils apprennent à rechercher cette paix et cette tranquillité, ce repos en Dieu d'abord. Et puisque ce sont de grands ce sont des gens qui véhiculent facilement la paix, ils vont être facilement utilisés pour aider les autres.
Est-ce qu'au niveau de la Bible, y a-t-il, par exemple, un verset quelconque qui reflète ce type de tempérament ou qui conseille comment s'adapter?
Je dirais qu'il y a un verset qui leur est facile, le verset qui dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alors, ce verset les réconforte parce que pour eux, ils essaient de toutes les façons à être toujours et en toute occasion en paix avec tout le monde. Mais la parole que j'avais citée il y a quelques minutes, cette parole qui nous rappelle que l'esprit qu'on a reçu, c'est pas un esprit de timidité. Parce que eux, je dirais, ils sont remplis d'une timidité tellement énorme que des fois, ils vont essayer de fuir même les gens. Essayer, même quand on les considère dans les sociétés, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit aussi dans l'église, ce sont des gens qui se retrouvent dans leur coin toujours, qui, des fois, à cause de leur timidité, qui ont tendance à subir les situations. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous donner cette force, mais aussi pas seulement une force, mais une sagesse pour savoir comment appliquer l'intelligence dans une situation donnée.
Des personnes solitaires ou plutôt casaniers, Nathalie?
Oui, ce sont des gens qui sont très casaniers et solitaires, mais comme on a vu que ce sont des êtres aussi rationnels et scientifiques, ça devrait être une richesse qu'ils devraient partager aux gens. Donc, au fond, ne pas savoir que malgré leur timidité, ils devraient faire partager leur richesse, parce que ce sont des gens très profonds, très intelligents, très rationnels, et je vous assure, par les temps qui courent, une personne dépassionnée est vraiment nécessaire.
Olivier?
Oui, je dirais ils sont solitaires, mais les gens aiment leur présence. C'est pour cela que des fois, on se pose des questions, on dit, mais le flegmatique, il a plusieurs amis. C'est parce que c'est les amis qui vont vers lui, et non le contraire.
C'est vrai.
Alors, c'est pour cela qu'on peut les voir dans certaines situations entourés par les gens, parce que les gens se sentent bien quand ils sont autour d'eux, des flegmatiques.
Nous arrivons au terme de cette édition du Dialogue des religions. Vous aurez compris que la personne flegmatique est calme, fiable, réfléchie, leur personnalité réservée et timide, et sont souvent très cohérentes, détendues et observatrices, je dirais même élégantes, Nathalie.
Oui, quand même, hein, parce que naturellement, ce sont des gens extrêmement rangés, et j'en connais pas mal qui, dans leur jeunesse, étaient assez rangés, et c'est très, très étonnant, parce que ce sont des gens, même dans leur enfance, qui sont très, très rangés.
Soyez donc exigeants et stimulants vis-à-vis des flegmatiques, et vous pouvez être tout à fait nature avec eux, il n'y a pas moyen de l'affecter.
Non, c'est pas facile de les affecter, les flegmatiques, parce que je dirais ils ont une carapace que la nature leur a donnée, ce qui fait que ils ne sont pas facilement susceptibles.
Nous allons aborder la fois prochaine le dernier type de tempérament, Nathalie, c'est lequel?
Ce sera le colérique.
Nous verrons ensemble que la personne colérique est passionnée, ambitieuse, audacieuse et aime être un leader avec souvent un ascendant sur les tempéraments flegmatiques. Ce profil qui est facilement fâché ou de mauvaise humeur peut se montrer mesquin et méfiant Nathalie et Olivier, je vous dis grand merci pour votre contribution dans ce dialogue des religions.
Tout le plaisir a été pour nous.
Merci beaucoup, Eric.
Merci à Lionel Lunanila Gahima qui a facilité la mise en onde. Eric Manila Kiza était avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
Merci.
Merci à vous.